de toute cette tristesse, ce chagrin qui m'environne souvent, souvent, par rapport à l'Église, par rapport à l'Église en général, hein, par rapport à tout ce que nous pouvons vivre et par rapport à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et je trouve qu'il y a vraiment un décalage entre ce que nous lisons et ce que nous vivons. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est vraiment en décalage. Et ce matin, je repensais à ce verset ou ce passage dans l'Apocalypse. Souviens-toi, enfin, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Et ce sont des versets qui me touchent. Et j'ai envie de dire, mais Seigneur, nous voulons retrouver ta gloire et ta puissance au milieu de nous. Nous ne sommes que des instruments. Nous sommes appelés à servir le Dieu vivant. Nous ne sommes pas appelés à nous produire. Nous ne sommes pas des vedettes. Nous ne sommes pas des artistes. L'artiste, c'est lui. La vedette, c'est lui. Le roi des rois, c'est lui. Mais nous ne sommes là que pour attiser le feu qu'il a mis en nous et faire que ce feu se répande et touche tous ceux qui nous entourent. En tout cas, c'est ma prière, c'est que nous puissions vraiment retrouver le chemin de la gloire de Dieu. Le chemin véritable de ce Dieu qui ne ment pas, qui a donné sa parole, et cette parole, elle ne peut être transformée puisqu'elle traverse les siècles, mais sa parole demeure éternellement. Alors, Jacques nous dirait, et ce matin je vais m'entretenir avec vous sur ce serviteur de Dieu qui s'appelle Jacques, et quand Jacques a dit, hein, vous savez. Donc il a dit ceci, Jacques a dit, ne vous bornez pas à écouter la parole, mais mettez-la en pratique. C'est Jacques qui l'a dit. Et c'est vrai que on va voir plusieurs passages dans les épîtres de Jacques ce matin. Mais la question que je voudrais vous poser et que je me pose à moi-même, est-ce que nous sommes demandés pourquoi les perdus qui nous entourent ne sont pas attirés par nous? Grande question. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est là, mais peut-être qu'on est là parce qu'on leur ressemble et parce qu'on n'est pas différent d'eux, et on est là au milieu d'eux. Mais on ne les bouscule pas, ou on ne les bouscule plus. Ça, c'est ma grande question. Pourquoi est-ce que les gens qui nous entourent ne sont pas attirés pour aller vers nous? Pourquoi, lorsqu'ils sont attirés, ils sont attirés par de mauvaises choses? Ne sont-ils pas charmés souvent par notre humour, notre intelligence, par nos moyens, par la pertinence de nos programmes, de nos divertissements, par notre musique peut-être? Je me rappelle là où on habitait, les fenêtres étaient grandes ouvertes dans la cité qui était juste derrière, il y avait une chrétienne qui était là, et elle mettait de la musique, et c'était exo à l'époque. Et on entendait tout un tas de musiques, je vous raconte pas lesquelles, parce que le peuple où on vivait était un peu particulier. Et donc dès que les beaux jours arrivaient, on entendait toutes sortes de musiques. Mais on entendait aussi exo au travers de tout cela. Et là, mon cœur se réjouissait parce que, franchement, je n'avais pas envie de danser sur les musiques que j'entendais. Quelqu'un avait osé mettre des louanges. Et où voit-on, mes amis, la puissance du roi des rois vivant en nous et parmi nous? Je ne sais pas si ça vous est arrivé de passer par de mauvais moments et de rencontrer des chrétiens proches de Dieu, tellement proches qu'ils sont remplis de la présence de Dieu, et en étant dans leur présence, vous vous sentez mal. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça. De sentir que finalement, il y a une gloire sur eux, mais vous savez ce que vous vivez, et c'est peut-être pas aussi glorieux que cela. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Simplement, le contact de personnes qui avancent avec Dieu, qui rayonnent, qui dégagent quelque chose de la sainteté de Dieu. C'est ce qui est arrivé à Ésaïe, quand il a vu dans le temple la gloire de Dieu descendre, les séraphins qui volaient l'un à l'autre en disant « Saint, 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 et l'Éternel les armées, toute la terre est remplie de sa gloire », et tout à coup il se met à dire quoi ?« Malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures, Et j'appartiens à un peuple tout entier dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi. Il croyait mourir. Mais un ange est venu, a pris à l'autel une pierre et a touché ses lèvres en disant « Maintenant tu es pur ». Et c'est là qu'il a entendu la voix de Dieu lui dire « Qui marchera pour nous? Qui combattra pour nous ?» Et il répondra « Me voici, envoie-moi ». Il était purifié, il était libéré, il était débarrassé. Songez aux croissants, aux croyants de l'Église primitive. On les prenait souvent, mais très souvent, pour des dieux. Ça ne vous a pas frappé, cela, en lisant les évangiles? On les prenait pour... Ils étaient obligés de se mettre à terre, ils étaient obligés de crier en permanence, « Non, nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des enfants du Dieu très haut. » Ils étaient obligés de se battre pour ne pas qu'on les confonde, parce qu'ils ne voulaient surtout pas que la gloire qui devait revenir à Dieu soit mise sur eux. Et ils avaient cette crainte de Dieu dans leur cœur. Pierre a dû reprendre sévèrement un officier de l'armée romaine en lui disant dans Acte 10, verset 26, « Lève-toi, moi aussi, je suis un homme. » C'est fort cela, hein ? Paul s'est écrié devant les citoyens de Lystre, « Nous sommes, nous aussi, des gens de la même nature que vous. » Donc arrêtez de nous adorer, quoi. À Malte, les citoyens dirent que Paul était un dieu. Acte 28, verset 6. Et puis à Thessalonique, on a pu entendre aux infos du soir, et ça j'aime beaucoup dans Acte 17, ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Vous vous rendez compte? Des gens qui ont bouleversé le monde. Moi, je souhaite, mes amis, que là où nous sommes, nous puissions bouleverser le quartier où nous habitons, la ville où nous habitons, le village où nous habitons, parce que la gloire de Dieu sera sur nous, et parce que cette gloire va sortir de nous et va toucher des vies, va toucher des situations, va toucher des hommes et des femmes qui ont un vide dans leur cœur, mais Dieu veut remplir ce vide. Dieu veut être leur sauveur, leur libérateur, celui qui les guérit, celui qui les remplit et celui qui leur donne la joie. Dieu est bon, on l'a dit tout à l'heure, et Matthieu a commencé cette réunion en parlant de la lumière de Dieu. La lumière est plus forte que les ténèbres. Dieu est lumière et il n'y a en lui point de ténèbres, nous dit la parole de Dieu dans la première épître de Jean, chapitre 1er. Dieu est lumière. Et la Bible nous dit que si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et voici comment ces gens étaient perçus par les citoyens de Jérusalem. Les peuples les tenaient en grande estime, nous dit Acte 5, verset 13. On n'entendait pas d'aussi beaux témoignages au sujet de l'église de Corinthe. Vous rappelez quand vous avez commencé à lire les premiers chapitres de l'épître de Paul aux Corinthiens, c'était pas brillant. Une église qui avait tous les dons, c'est pas rien ça. Elle avait tous les dons. Mais Paul va dire plusieurs fois, vous êtes charnels. Vous vivez selon la chair. Vous battez les uns les autres, vous voulez savoir quel est celui qui sera le plus grand. Moi j'appartiens à Paul, moi je suis d'Apollos, il y en a un qui dira, mais moi je suis même de Jésus. Vous vous rendez compte? Ils se battaient, il y avait des animosités, mais il y avait des dérèglements, il y avait des vies qui n'étaient pas compatibles avec les enseignements de la parole de Dieu. C'était des gens qui faisaient n'importe quoi. Et c'est vrai qu'on entendait beaucoup de choses au sujet de l'église de Corinthe, mais on n'entend pas plus de choses au sujet des églises occidentales maintenant. Est-ce que nous aurions cédé du terrain? Et en pensant à cela, je me suis dit, voyons, quand on est en pleine santé, on a toute la force pour accomplir la tâche que nous devons accomplir. C'est vrai ou pas? Mais il suffit que vous alliez quelque part dans un lieu public, et là une personne se met à éternuer. Elle va laisser un nuage derrière elle. Vous entrez dans ce nuage. Une journée après, vous arrivez à la maison. Une journée après, vous vous sentez faible. Sentez vos jambes qui ne vous tiennent plus. Vous sentez que votre corps est affaibli. Vous sentez que vous n'avez plus la force, la niaque pour faire les choses. Vous êtes affaibli. Est-ce que vous comprenez l'image que je veux vous partager ce matin? Lorsque nous pensons à ces gens que l'on considérait comme des dieux, est-ce que les gens qui nous entourent nous considèrent comme des gens qui sortent de l'ordinaire? Des gens qui rayonnent de quelque chose qu'ils n'ont pas? En disant cela, je ne veux pas vous culpabiliser ni me culpabiliser, mais je voudrais dire, mes amis, si la parole de Dieu est là, c'est parce qu'elle veut nous rétablir dans ce que Dieu a prévu au départ pour nous. Dieu est Dieu. Il ne changera pas. Et quand on voit, non, ce n'est pas, je crois que c'était en Ésaïe 59, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Mais qu'est-ce qui empêche la bénédiction de Dieu de descendre? Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre ce Dieu tout-puissant et nous-mêmes. Et en disant cela, je voudrais vraiment, je crois que nous nous contentons de dire ces choses, mais je ne suis pas un adepte du statu quo, mais je refuse que nous perdions la vitalité, mes amis. Je refuse que nous perdions la vie, la force, la santé que Dieu nous donne. Pas plus que je refuse l'attitude de montrer à ce monde perdu un sauveur et un roi vivant. Nous sommes là pour le montrer. Et souvent, quand nous voyons des catastrophes, quand nous voyons des lois pernicieuses qui passent, on dit il faut prier. Et on voit sur les réseaux sociaux simplement le dessin de deux mains qui se joignent pour prier. Et on a l'impression que l'Église ne fait que cela, elle prie, mais elle se contente de prier. La prière, c'est bien, mais l'action avec la prière, c'est encore mieux. Et je crois que nous sommes appelés à bouleverser notre monde et à aller à contre-courant avec la parole de Dieu dans nos cœurs, dans nos bouches et l'épée à double tranchant dans nos mains pour dire aux vindicatifs, tu ne nous auras pas, nous te vaincrons à cause de ce que Christ a accompli à la croix du calvaire. Avec nous n'est pas le bras de la chair, avec nous est le bras de l'Éternel, et le bras de l'Éternel est un bras qui est puissant, mes amis. Alors je voudrais vraiment qu'on puisse ce matin penser à cela et dire, Seigneur, nous ne voulons pas rester ce que nous sommes, mais nous voulons nous réveiller. Et je crois que bien des personnes sont lasses de se contenter d'exister, d'à peine survivre peut-être, mais je ressens une urgence divine, mes amis. Une impulsion venant de Dieu qui me pousse ce matin à vous dire ces choses-là. Elles sont pour vous, si vous n'êtes pas satisfait de vivre dans ces obscénités, dans la crasse et dans tout le gâchis que ce monde nous présente. Et c'est pour vous, si vous le désirez, une vie plus élevée. Et cette vie plus élevée, c'est la vie de résurrection. Le ressuscité habite en moi. Le ressuscité habite en vous. J'aimerais que vous puissiez dire amen.
Amen.
J'ai l'impression que vous ne croyez pas ce que je vous dis ce matin. Ben non, vous ne réagissez pas. Donc, moi, j'aime bien avoir une petite interaction avec le public là. Jésus vit en nous par son esprit.
Amen.
Ouais, vous dites ça maintenant parce que je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein. Bon, je vous attends un petit peu plus loin. Et il veut, ce Dieu veut que nous expérimentions sa nature divine. Il éprouve un désir passionné de nous voir vivre une vie plus élevée. Il veut que nous expérimentions sa nature divine, sa puissance, bien plus que vous ne le désirez vous-même. Dieu ne nous bride pas. Si nous sommes bridés, c'est à cause de notre idolâtrie, mes amis. À cause de tout ce qui nous affaiblit jour après jour. Et Jacques va parler d'un mot qui m'a surpris quand je l'ai lu les premières fois. Il va parler du mot adultère. Waouh ! Les mots de l'apôtre Jacques au chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Et ces mots sont forts, si bien qu'on les entend rarement prononcer dans nos prédications, dans nos conférences, dans nos partages dans nos églises, dans nos maisonnées. Tout d'abord, ce n'est pas Dieu qui décide de devenir notre ennemi, pas du tout. Mais il ne fuira pas le conflit si nous décidons de vivre à la manière de ce monde. Et mes amis, est-ce qu'on est conscient que nous sommes bombardés tous les jours par des choses que si on les accepte, elles nous affaiblissent. Si on les accepte, on tend à devenir et à ressembler au monde. Et vous avez vu la tactique de l'adversaire dans les informations, c'est de nous choquer par des nouvelles, et au début on est choqué, on les refuse, on les combat ces nouvelles. Et puis ça revient dans les films, ça revient dans les publicités, ça revient aux actualités. Et petit à petit, on se dit, bon, à quoi bon ? On baisse les bras. Et puis finalement, on finit par non pas accepter, mais à dire, bon, ben, de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on ait de telles attitudes ? Dieu ne s'adresse pas à l'humanité toute entière, mais aux croyants. Alors que veut dire Jacques lorsqu'il dit adultère ? Nous sommes l'Église, nous sommes l'épouse du Dieu vivant, de Christ. Christ est l'époux, nous dit la parole de Dieu. Et l'idolâtrie, c'est l'adultère, c'est commettre un adultère contre Dieu dans le contexte de l'idolâtrie. Ce peuple dont parlait Jacques était infidèle à Dieu. Et lorsque nous pensons à l'idolâtrie, qu'est-ce qui vient dans nos cœurs ? On pense aux statues. On pense à toutes ces reliques, nous pensons aux autels, nous pensons aux temples qui sont érigés en l'honneur d'autres dieux avec un petit dé. J'aime bien dire avec un petit dé parce que notre Dieu, lui, il a un grand dé. Amen. Mais lorsque Jésus a déclaré que le peuple était adultère, il ne leur reprochait pas d'adorer une image taillée et d'adorer d'autres dieux. Il répondait à des personnes qui venaient lui demander de prouver par un signe qu'il était le Messie. Il n'était pas question d'édifier des temples, des autels, mais il parlait, alors Jacques va parler de la discrimination entre les frères et sœurs, de l'envie, de la jalousie, des ambitions égoïstes, etc. De la satisfaction des désirs, de la poursuite des plaisirs. D'où viennent ces luttes, nous dira Jacques, au chapitre 4, versets 1 à 3. On va le lire ensemble. Vous allez voir un peu, c'est quand même, on peut le mettre à l'écran, c'est possible ? Jacques 4, 1 à 3. Voilà. Voici ce que nous dira Jacques. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous ? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres ? Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, vous avez des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. Et nous disons Amen à la parole de Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est Jacques. Et toutes ces pratiques dont Jacques parle, c'est de l'adultère. Et c'est ce que l'Église moderne a ignoré. Les avertissements de Jésus, les avertissements de Paul, de Jacques et de d'autres auteurs du Nouveau Testament. Et pour faire simple, bien, nous avons réduit l'idolâtrie à l'idée d'élever des statues, des autels, des temples pour adorer des dieux étrangers. Mais Paul dira, ne voulez-vous pas faire tout ce qui vous fait plaisir. Voici ce que dira Jean. Jean, 1 Jean, chapitre 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et Jean fait référence à tout ce que l'on trouve dans le monde. Nous commettons adultère avec le monde lorsque nous sommes motivés par le désir intense d'obtenir ce qui nous apportera du plaisir. Et ce serait bien que dans l'avenir, on puisse parler justement du combat entre la chair et l'esprit. La Bible nous dit, si nous marchons selon l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et une fois, j'étais avec des jeunes, et on était avec Luc, et je partageais sur l'image d'une balance Robert Val. Vous avez vu ça, peut-être vous en avez même vu vous-même, ou vous en êtes servi vous-même, les vieilles balances avec deux plateaux en équilibre. Et puis on mettait donc une masse sur le plateau droit, par exemple. Et puis on essayait de trouver le poids de cette masse en y mettant des poids où étaient indiquées des mesures de poids. Et lorsque le poids était égal, enfin la mesure de poids était égale à la masse, la balance était en équilibre. Maintenant, si on mettait plus de poids d'un côté, plus de masse, que faisaient les mesures, la balance, elle montait comme cela. Mais si on mettait plus de poids de l'autre côté, la masse, elle était plus, les poids prenaient le dessus. Et ainsi, mes amis, lorsque nous marchons dans la présence de Dieu, nous sommes imprégnés par lui. Et nous sommes comme protégés de tout ce qui voudrait nous attirer vers le bas. Mais si nous lâchons la main de Dieu, qu'est-ce qui va prendre le dessus? Ce sont les choses que les gens autour de nous adorent, toutes les convoitises, tout ce que les gens peuvent toucher. Nous nous disons, oh, c'est pas si mal que cela. Et on flirte avec ces choses-là, parfois on tombe dedans, et là nous sommes vraiment vaincus par la puissance du péché, et le Seigneur se trouve bien léger dans tout cela. Il n'a pas tout son poids. Alors Seigneur, merci de nous faire comprendre ce qu'il y a derrière l'idolâtrie. Chaque individu de cette planète est né avec cette qualité. Dieu a mis dans le cœur de chaque homme la pensée de l'éternité. Et quand les païens qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. S'ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rend témoignage et leur pensée s'accusant à se défendre tour à tour. Chacun connaît cela. Et Romains 1,19 nous dit « Ce que l'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Alors merci Seigneur pour cela. Et le moment critique dans la vie de tout être humain, c'est celui où il choisit soit de chercher le Dieu vivant, soit de satisfaire ses propres désirs à la place de ce que Dieu voudrait lui offrir. Et Paul dira dans Romains, puisqu'ils ont connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, ils ne l'ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Mes amis, je crois que le fait de ne pas adorer Dieu pour qui il est, la véritable adoration, c'est pas le moment où le groupe de louanges nous entraîne dans les chants, par de beaux chants, n'est-ce pas? Mais le mot adorer se trouve dans la Genèse, au chapitre 22 et verset 5. Est-ce que vous avez remarqué que dans ce passage de la Genèse 22:5, il est question d'une véritable adoration? Et pourtant, quand on lit ce passage, on n'aurait pas aimé être à la place d'Abraham. Abraham va parler à ses serviteurs et va les informer qu'il va gravir la montagne avec qui ? Avec son fils Isaac, le fils de la promesse, l'unique fils que Dieu lui a promis d'avoir. Et Dieu lui demande de l'offrir en sacrifice. Alors voici ce qu'il dit à ses compagnons, « Vous restez là avec l'âne, le jeune homme et moi, nous irons là-haut. » Pourquoi faire? Pour adorer. Qu'allait faire Abraham un peu plus tard? Est-ce qu'il allait entonner un chant très lent en l'honneur du Seigneur? Ou bien rassembler quelques musiciens chanteurs pour faire une soirée de louanges à l'église? Pas du tout. Il était là pour adorer. Il était là pour obéir à l'ordre que Dieu lui avait donné 3 jours auparavant. Vous savez, 3 jours, c'est long. Et je crois que c'était intentionnel que Dieu lui a dit, tu iras offrir ton fils à telle montagne à 3 jours de marche. En 3 jours, il pouvait revenir sur sa décision. Il aurait très bien pu dire, oh non, je ne vais pas le faire finalement, et rebrousser chemin. Mais il a fait ses 3 jours de marche. Il a dit à ses serviteurs, restez là, nous on va monter sur la montagne et on va adorer Dieu. Il était là pour obéir à l'ordre que Dieu lui avait donné 3 jours auparavant. Il fallait sacrifier son fils unique. Alors, adorer, selon Romains 1:21, c'est glorifier, c'est rendre gloire, c'est honorer. Nous glorifions, nous honorons Dieu ou n'importe quelle autorité lorsque nous obéissons. Par contre, nous dégradons, nous déshonorons une autorité lorsque nous n'obéissons pas. Et nous aurons beau faire des vœux pieux, faire l'éloge de Dieu, le louer, écrire des chants, écrire des livres à son sujet. Si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire, nous l'insultons. Et c'est tout à fait l'opposé, le contraire de l'adoration ou de l'honneur. Et mes amis, combien on lit dans l'Ancien Testament, Amos par exemple, Dieu dira au travers de son serviteur, je hais, je méprise vos fêtes, je ne peux pas sentir vos cérémonies, éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes, mais que le droit coule comme de l'eau et la justice comme un torrent intarissable. Et Ésaïe 66, versets 2 et 3, voici sur qui je porterai mes regards, sur le malheureux, etc. Vous connaissez ce passage par cœur. Dieu commence à s'identifier à ceux qui sont au bénéfice de sa bénédiction et qui tremblent au son de sa parole. Et Dieu s'adresse à ceux qui ont choisi cette manière d'adorer. Et c'est vrai qu'il en va pour nous de même. Nous chantons des cantiques à Dieu, nous assistons à des réunions, nous proclamons notre appartenance à Dieu, nous agissons même en conformité avec les voies du Nouveau Testament, mais si nous n'avons pas ce fondement qu'est l'obéissance, notre adoration en fait n'est plus du tout de l'adoration. Dieu nous demande de vivre comme des enfants obéissants. Je ne sais pas si vous avez été interpellé par Dieu dans votre vie, si Dieu vous a demandé de faire telle ou telle chose. Et puis vous avez dit oui, c'est une très bonne chose, je vais faire cela. Puis vous avez laissé le temps passer, vous avez remis à demain, puis le lendemain vous avez remis au lendemain, et le lendemain vous avez remis encore au lendemain, et on en est là aujourd'hui. Dieu nous a parlé. Dieu nous a interpellés par son esprit. Mais Dieu attend une chose, c'est que nous puissions lui obéir et lui donner toute la priorité avec une foi qui est ferme. Alors j'aimerais simplement revenir à ce passage de Jacques que je vais lire avec vous pour terminer. Jacques chapitre 4 verset 1, j'aimerais qu'on puisse mettre ce texte sur l'écran et on va suivre pas à pas ce passage. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil, et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Et nous disons amen à la parole de Dieu. Et il vous élèvera. Alors je voudrais encore terminer non pas par une note pessimiste, mais dire « Dieu est amour, Dieu nous aime, Dieu nous chérit, Dieu veut notre plus grand bien, il veut nous accompagner tous les jours, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu est bon, qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Dieu est bon. » Et je voudrais qu'on puisse le dire ensemble ce matin. Dieu est bon.
Dieu est bon.
Il nous aime, mes amis. Et il nous aime d'un amour extraordinaire qui surpasse ce qu'on pourrait même imaginer nous-mêmes. Mais il veut nous voir marcher dans ses voies. Et j'aimerais vraiment nous lancer ce défi, je me mets dedans, de nous approcher de lui chaque jour, de lui dire de nous éclairer par sa parole, de nous parler, de mettre sa lumière dans nos cœurs, de faire en sorte que toute zone de ténèbres puisse être chassée, que toute zone de péché soit pardonnée par lui, couverte par son sang à la suite de notre repentance, mais que nous puissions retrouver cette douce intimité avec lui, le père qui communique avec son enfant, le père qui écoute son enfant, le père qui parle à son enfant, le père qui veut bénir son enfant et le conduire. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Un Jésus qui nous aime au-delà de ce que l'on peut penser, mais un Jésus qui veut nous dire ce matin, j'ai préparé pour toi des plans de bonheur et non de malheur. Tu seras la tête et non la queue. Je me servirai de toi comme un instrument puissant pour que mon royaume s'étende et pour que ma gloire éclate au milieu de ce peuple enténébré, gisant sous le poids du péché et de la honte. Je veux faire de toi une flamme de feu. Je veux faire de toi une flèche aiguë, une flèche de délivrance pour ce pays, pour ta ville, pour ton village, pour tes collègues de travail. Je veux faire de toi cette lumière, parce que je suis en toi et je suis ta lumière. Merci Seigneur pour ce temps de partage ce matin. Merci Seigneur pour ce que tu as l'intention de faire avec chacun d'entre nous. Mais notre prière, Seigneur, c'est que nous puissions être secoués nous-mêmes, afin que nous puissions secouer ceux qui nous entourent. Il y avait un chant anglais qui disait ceci, « Seigneur, secoue-moi afin que je puisse secouer les autres. » Et Seigneur, merci parce que tu veux nous entourer de ta grâce et nous dire que tu continues à nous aimer. Merci pour ta patience. Merci pour ton amour. Merci Seigneur parce que chaque matin, nous nous réveillons avec un renouvellement de tes bontés, de tes grâces. C'est une telle bénédiction, c'est un tel bienfait de savoir que, Seigneur, tu n'es pas celui qui nous pointe du doigt avec méchanceté, qui nous regarde courroucé et en colère. Non, tu es un Dieu d'amour, mais tu es un Dieu qui, lorsque tu as fait un vase et que ce vase ne réussit pas, eh bien tu le détruis ce vase et tu en refais un autre tel que tu trouves bon de le faire. Alors Seigneur, nous sommes dans la maison du potier, et nous te prions que si notre vase n'a pas réussi, que tu puisses refaire un autre vase. Mais nous prions pour que ce vase que tu vas faire soit non pas un vase d'argile, non pas un vase d'usage vil, ordinaire, mais que nous puissions être des vases d'honneur dans ta maison. Au nom de Jésus, remplis de toi, remplis de ta gloire, remplis de ta beauté, de ton éclat, de ta magnificence, afin que ceux qui nous entourent se disent, mais cet homme, cette femme ne ressemble à personne d'autre que je connaisse. Il y a quelque chose en lui et en elle que je n'ai pas, mais que je désirerais avoir. Seigneur, merci parce que nous sommes la réponse aux questions de ce monde. Parce que tu es la réponse, parce que tu vis en nous et tu es celui qui veut répondre aux cœurs qui sont assoiffés au travers de nos vies, au travers de nos paroles, au travers de nos actions, au travers de tout ce que nous pouvons échafauder. Seigneur, que nous soyons tes instruments, des instruments puissants pour ta gloire. Alors Seigneur, merci de nous pardonner, merci de nous purifier, Merci de nous transformer. Merci de simplement de nous couvrir par ton sang et de nous purifier entièrement, afin que ton Saint-Esprit soit libre de venir habiter sa maison et la remplir entièrement jusqu'à déborder pour toucher des vies, des situations autour de nous. Seigneur, merci pour ton Église que tu aimes, pour qui tu t'es donné et que tu rendras belle, irrépréhensible, Seigneur, jusqu'à son retour. Alors nous avons envie de dire, Seigneur, viens, viens bientôt, Seigneur Jésus. L'Esprit et l'Épouse disent, viens, et Seigneur, nous disons pendant ce culte, en attendant que tu reviennes, que nous puissions devenir des instruments puissants à ta gloire. Au nom de Jésus, réveille-nous. Réveille cette église Josué, réveille chaque famille de cette église, réveille ceux qui sont partis et Seigneur qui doivent revenir au milieu de nous parce que c'est ton plan. Réveille-les Seigneur, afin qu'ensemble nous bâtissions pour ton royaume. Au nom de Jésus, nous sommes un corps, tu es la tête de ce corps et nous voulons privilégier ce contact avec toi. Tu donnes tes ordres. Seigneur, tu manifestes ta volonté en transmettant à ce corps que nous sommes tes désirs, ta volonté. Alors nous voulons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, purifié, lavé, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, au nom de Jésus, à toi toute la gloire, à toi le règne, à toi la puissance, à toi la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Amen.